Littérature sans frontières.
Catherine Fruchon-Toussaint.
Apolline Verlon.
Bonjour à toutes et à tous. À l'occasion du Salon du Livre africain qui se déroule actuellement à Paris pour une quatrième édition jusqu'à dimanche, et à l'heure du 27e Printemps des Poètes qui se tient dans toute la France jusqu'au 31 mars, je reçois aujourd'hui une écrivaine dont l'actualité littéraire résonne avec ces deux événements puisqu'elle a publié récemment un roman intitulé « Je remercie la nuit » aux éditions Mémoire d'Encrier qui s'inscrit dans l'histoire récente de la Côte d'Ivoire, ainsi qu'un recueil de poèmes paru chez Point sous le titre « Latérite ». Bonjour Véronique Tadjo.
Bonjour Catherine.
Pour commencer, quelle est la place de la poésie dans votre vie ?
Alors vraiment, ça a été une grande place, parce que c'est la première chose que j'ai lue en fait. Je me suis gavée de poésie, je restais dans mon coin, je lisais de la poésie et puis ça me satisfaisait très bien, ça me faisait quelque chose, je n'en sais rien, mais j'ai commencé par la poésie.
Donc c'est une passion d'enfant presque ?
Presque, je ne sais pas. Par exemple, si je remonte dans mes lectures, Le Petit Prince de Saint-Exupéry, en fait, c'est de la poésie en prose. Donc, je ne sais pas. Et puis, il y a eu tous ces écrivains de la négritude, du mouvement de la négritude, de Senghor, Césaire, Fanon. Donc, voilà, c'était vraiment... Et puis, il y avait Prévet, il y avait Rimbaud, il y avait... Ça, c'est déjà quand j'étais adolescente. Donc, c'est une espèce de fusion qui fait que la poésie a toujours... jouait un rôle très important pour moi.
Et quelqu'un vous a initié en particulier ?
Non, je ne dirais pas ça. Je crois que c'est... Je suis tombée en amour très vite.
Alors ce recueil, Latérite, il faut le préciser, c'est une réédition. Est-ce que d'ailleurs ce ne serait pas votre toute première publication, Véronique Tadjo ?
Si, exactement. Exactement. C'est à la suite d'un voyage en pays Sénoufo, là où j'ai fait une grande traversée du désert. Je faisais mes études à Paris et j'ai décidé de rentrer par la route en Côte d'Ivoire. Et je suis allée en pays Sénoufo, dans le nord de la Côte d'Ivoire.
Donc en effet, c'est un recueil de textes inspiré de ce voyage entre Paris et Abidjan. Mais est-ce que pour autant, Véronique Tadjo, vous avez écrit d'une traite tous ces textes qui composent le recueil ?
Non. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est que comme c'est une traversée du désert, on fait attention quand même, on se prépare. Et il n'était pas question d'amener un appareil photo, des choses qui pourraient attirer des ennuis. Donc, j'avais un carnet et un stylo. Et donc, voilà, à chaque fois que je voulais me souvenir de ce voyage, ben, j'écrivais quelque chose. Et le temps d'arriver à Abidjan, après un arrêt à Korogo, j'avais déjà presque un recueil.
Donc ça, c'était dans les années 80, vous étiez toute jeune.
C'est ça.
Est-ce qu'on peut dire d'une certaine façon que c'est la poésie qui vous révèle comme écrivaine ?
Ben, je pense bien, oui. J'écrivais des poèmes, mais je les laissais sur des feuilles volantes qui étaient dans toute la maison. Mais là, oui, je crois.
Jusqu'ici, vous ne vous imaginiez pas comme écrivaine ?
Je m'y imaginais comme photographe. J'aimais beaucoup la photographie. J'aurais pu devenir photographe, mais l'écriture comme ça est venue. La poésie est venue et à tout prix.
Donc ce recueil paraît en 1983. Pourquoi est-ce que vous avez eu envie qu'il soit réédité aujourd'hui, sachant que c'est une édition augmentée, bien entendu, puisqu'il y a une deuxième partie inédite qui complète les textes sous le titre « Déclinaison du temps premier », nous allons en parler. Pourquoi était-il donc important pour vous que ce livre soit republié ?
Parce que je pense qu'il dit encore des choses qui sont tout à fait valables aujourd'hui. Et c'est un recueil qui m'est très cher. Et donc, je ne voulais pas qu'il tombe dans l'oubli. Et donc, quand Alain Mabankou...
Qui est le directeur de la collection.
Voilà, qui est le directeur de la collection, m'a dit « Ah, Latérite, Latérite ». J'ai dit « Oui, quoi, Latérite ?» Et il n'était plus édité. Et donc, c'est par là que tout a commencé, dans cette collection Point.
Alors, arrêtons-nous avant d'entrer dans le recueil sur ce titre « Latérite », qui désigne une roche tropicale très dure de couleur rouge vif ou rouge brun. Pourquoi, Véronique Tadjo, avez-vous choisi ce mot un peu rare et minéral pour vos poèmes?
Ben c'est parce que je me suis arrêtée à Korogo, et je me suis même arrêtée à Korogo pendant longtemps, pendant 2 ans. Et là-bas, c'est la terre rouge, c'est la poussière, cette terre rouge, la latérite. Et donc, pour moi, quand je pense à Korogo, quand je pense au nord de la Côte d'Ivoire, quand je pense au même, quelque part, au désert, à cette sobriété, pour moi, c'est la terre rouge.
Donc, il y a cette mémoire visuelle et aussi sensorielle presque.
Exactement, il y a même une odeur qui entre dans les narines à cause de toute cette poussière. Et puis j'ai trouvé ça très beau, elle recouvre tout.
Alors vous le disiez tout à l'heure, Véronique Tadjo, c'est aussi un hommage à la culture Sénoufo, donc de la Côte d'Ivoire. C'est une tradition qui vous est chère à quel titre exactement ?
En fait, je ne suis pas du tout du Nord, je suis plutôt du Sud et de la forêt. Mais je me suis découvert une passion et pour le désert et pour tout ce qui est sahélien. Je ne sais pas pourquoi. Ça me touche, ça me parle énormément. Je trouve qu'il y a cette force de trouver la vie, de construire la vie dans des endroits où on a l'impression que rien ne pourrait pousser, rien ne pourrait arriver. Et il y a tout un foisonnement d'une vie, j'allais dire, presque parallèle. Et ça, ça m'a énormément touchée.
Et donc, c'est une culture que vous avez découverte à l'occasion de ce voyage.
Voilà. Et je dis souvent, je n'ai jamais été autant dépaysée que dans mon propre pays. C'est-à-dire, en tant qu'Abidjanaise, restant là à Abidjan, tout le temps à Abidjan, je ne pensais pas que j'allais découvrir quelque chose, un endroit aussi différent dans mon propre pays. Et d'ailleurs, mes amis me disaient « Mais Véronique, qu'est-ce que tu fais là-haut ? » Mais enfin, je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'il y a là-bas ?
Et cette culture qui est une culture orale, traditionnelle, est-ce qu'elle est toujours vivante aujourd'hui, diriez-vous ?
Je crois. S'il y a quelque chose de très vivant, je pense que c'est la culture Sénoufo encore dans le nord de la Côte d'Ivoire. Parce qu'elle a réussi à survivre en s'adaptant. Et donc, parfois c'est des formes de syncrétisme, mais c'est une culture qui... C'est des gens assez secrets entre eux, donc ils arrivent un peu à conserver leur culture.
Même avec la nouvelle génération ?
Même avec la nouvelle génération, oui. Elle est très attachée à sa culture.
Et ça passe par... Donc l'oralité, on l'a dit, mais aussi par la musique.
Par la musique, des rites d'initiation, la musique, oui, très importante. Les balafons, la kora, le chant, la poésie, c'est quelque chose. Par exemple, aller à des funérailles, c'est Sénoufo. À l'époque où j'y étais, c'était connu. Il fallait absolument au moins aller une fois à des funérailles, c'est Sénoufo. Parce que alors là, il y avait toute la musique, toutes les danses, tout. Et puis, c'est des sociétés secrètes. Donc, il y a des masques qu'on voit rarement. Je me souviens à Korogo, à l'époque où j'y étais, il y avait certains masques, quand ils sortaient et ils entraient dans la ville, il fallait vite se cacher si on n'était pas une initiée ou voilà, qu'on n'avait rien à faire là.
Pourquoi ? Parce que ça pouvait porter malheur ?
Oui, c'est-à-dire que le masque lui-même n'avait aucune envie de vous rencontrer. C'était pas question d'être sur son chemin. Donc, on apprenait très vite qu'il fallait...
Se mettre à distance.
Voilà.
Alors, tout cela, donc, irrigue vos poèmes. Et si vous voulez bien, Véronique Tadjo, on aimerait bien vous entendre lire un de ces textes dont on va parler plus longuement dans la deuxième partie de leur spécificité, de leur thématique, et puis de cette deuxième partie inédite. Mais en attendant, on vous écoute pour un extrait que vous avez choisi.
D'accord, merci. Raconte-moi la parole du griot qui chante l'Afrique des temps immémoriaux. Il dit « Ces rois patients sur les cimes du silence et la beauté des vieux au sourire fané. Mon passé revenu du fond de ma mémoire comme un serpent totem à mes chevilles liées. Ma solitude et mes espoirs brisés, qu'apporterai-je à mes enfants si j'ai perdu leur âme ?» Il dit le griot à la langue pendante « Vous irez plus loin encore dans la forêt blanche des bétons entassés et vous pleurerez dans les quartiers boueux d'une ville sans refuge. Il dit aussi, le griot nouveau, « Regardez, il y a déjà des hommes que les révoltes étreignent. » Les balafons venaient à peine de s'arrêter. Je me sentais déjà seule. Je ne savais plus si le sol était mouillé ou si le vent avait tourné. C'est ici que je veux m'allonger et puiser ma beauté. C'est à côté du mont et sous cette terre rouge que je veux retrouver les secrets enterrés.
Vous êtes bien à l'écoute de Littérature sans frontières sur RFI en compagnie aujourd'hui de l'écrivaine Véronique Tadjo, romancière, lauréate du Grand Prix d'Afrique noire, poète, comme en témoigne ce recueil intitulé « Latérite », mais aussi autrice pour la jeunesse, peintre, illustratrice, une femme aussi cosmopolite qui a vécu dans de nombreux pays, de la France à la Côte d'Ivoire, en passant par l'Afrique du Sud et le Royaume-Uni. Bref, une plume qui se nourrit de très nombreuses sources culturelles, géographiques, politiques, historiques, familiales, personnelles. Quel est le moteur de votre inspiration, Véronique Tadjo ? La curiosité, le questionnement, le travail de la mémoire ?
Je pense... les trois. Non, c'est vrai, les trois. Il faut de la curiosité. Ensuite, il faut tout le temps questionner. Et ensuite, je crois que le travail de mémoire est très important pour moi. Surtout qu'on vit dans une société de l'éphémère. C'est bien de rappeler certaines choses de temps en temps, de dire « mais attention, on a vécu telle chose, on a fait telle chose ». Et donc, je trouve que la mémoire, c'est ce qui bâtit une personne, qui bâtit un peuple.
Donc, continuons avec vous de feuilleter ce recueil de poésie Latérite. Et je repérais ce petit extrait, ce poème, page 46. Voilà ce que vous écrivez, Véronique Tadjo. Tu es ma muse qui s'en va, ma muse qui revient, ma muse à double tranchant, les fruits de mon âme en déroute, le ventre rond de ma fécondité, ma muse qui s'amuse à me jouer des tours, tu es ma muse aux trois sourires d'acacia, d'hibiscus et de ylang ylang. Fermez les guillemets. Et vous, quelle est votre muse, Véronique Tadjo ?
Ah, je pense que c'est les gens que j'aime, c'est les gens que je rencontre. C'est les gens avec qui j'aimerais parler. Pourquoi je dis là, tu es ma muse ? C'est parce qu'il y a l'amour. Et donc l'amour, tout de suite, ça emporte dans des lieux magiques. Mais seulement, c'est vraiment les gens qui sont autour de moi, à qui je voudrais parler. Voilà, j'aimerais savoir, alors, comment ça va ?
Et à quel moment vous sentez que... Justement, les sujets vous inspirent un poème ou un roman ou un livre pour la jeunesse ou une peinture. Est-ce que ça se fait si naturellement ?
Parfois, ça se fait, je ne dirais pas en même temps, mais d'une manière alternative. C'est-à-dire que de temps en temps, ça va être la poésie que je continue à écrire tout le temps. J'écris tout le temps de la poésie, mais je suis en train de travailler sur un roman. Donc, c'est comme peindre. Ça se fait pas tout le temps, je le fais pas tout le temps, mais je peux le faire d'une manière intense pendant un certain temps. Donc, tout ça, ça s'imbrique et puis ça se nourrit, voilà. C'est comme ça que ça fonctionne. Voilà. Et je dis toujours, par exemple, que je suis une meilleure écrivaine quand je peins. Parce qu'on sait très bien qu'on n'a pas le cerveau, il y a des endroits différents pour chaque chose. Donc parfois, peindre, ça permet de se libérer de penser à autre chose et après de revenir à l'écriture rafraîchie.
Et est-ce que vous êtes une meilleure peintre quand vous écrivez ?
Oui, quand j'écris aussi, c'est la même chose.
Ça va dans les deux sens.
Ça va dans les deux sens. Pendant longtemps, j'ai pensé que si je peignais, alors d'écrire, je trahissais l'écriture. Mais après, j'ai compris qu'au contraire, toutes les formes d'art nourrissent. Et donc, il ne fallait pas que je lutte contre ça. C'était vraiment quelque chose qui était un plus plutôt qu'autre chose, oui.
C'est donc un recueil de textes souvent courts, des poèmes en prose, qui peuvent se lire aussi dans un même élan, comme si les mots coulaient, avec néanmoins dans la première partie une mise en page très singulière, c'est-à-dire les pages sont aérées avec des poèmes en haut, en bas, tout en lettres capitales. Est-ce que c'est vous, Véronique Tadjo, qui avez choisi cette présentation ?
Oui.
Et pourquoi ?
C'est venu naturellement. Ben c'est là où justement peut-être que la peinture arrive. Parce que je voulais que les mots s'assoient sur la page. Je voulais que ce soit plus des signes que des mots. Donc il fallait qu'ils habitent la page. Et donc voilà, les majuscules me convenaient très bien. Et puis comme je déteste la ponctuation, ça m'arrangeait aussi.
Et en revanche, donc dans cette deuxième partie déclinaison du temps premier, où il y a un autre certain nombre de poèmes, là on n'est plus en lettres capitales, il y a même des italiques, le corps est un peu plus petit. Racontez-nous la différence alors, et peut-être de façon plus générale, que disent ces nouveaux poèmes en écho aux précédents ?
Je pense que dans l'athérite, c'était la découverte de soi-même et du pays en même temps, du pays inconnu. Et tandis que je pense que la seconde partie est plus dans, pas une remise en question, mais une certaine douleur de ce qui est arrivé par la suite, de tous ces conflits qui ont divisé le pays. Cette fois-ci, non pas géographiquement, avec la forêt au sud et la savane au nord, mais c'est les gens qui se sont déchirés. Donc il y a un peu voilà, cette atmosphère-là dans le deuxième poème.
Il y a le contrepoint de la guerre, en effet, tel que vous l'écrivez. Est-ce que vous voulez bien nous parler de quelle guerre il s'agit ?
Pour moi, c'est celle de la crise post-électorale.
En 2010.
Voilà, 2010-2011, quand on a eu deux présidents, deux armées, deux gouvernements.
En Côte d'Ivoire.
3000 morts. Et ça, c'est officiellement, mais je pense qu'il y en a eu beaucoup plus. Et vraiment, les gens se sont affrontés. Vraiment, le pays a été déchiré. Donc, c'est une guerre civile. Les gens d'un même pays qui se sont affrontés, oui.
Et c'est ce que vous racontez d'ailleurs dans ce nouveau roman « Je remercie la nuit » à travers une fiction qui en effet revient sur cette époque à travers l'amitié de deux jeunes filles. Alors justement, est-ce que le roman et ceux que vous avez écrits, je viens de citer « Je remercie la nuit » sur cette crise politique en Côte d'Ivoire évidemment, mais il y a eu aussi « L'ombre d'Imana » sur le génocide au Rwanda, En compagnie des hommes sur l'épidémie d'Ebola. Mais est-ce que la poésie peut de la même façon dire aussi l'état du monde ?
Oh, absolument. Je pense, et même peut-être parfois d'une manière beaucoup plus directe. Parce qu'on cherche vraiment l'émotion, on cherche à briser l'indifférence. Donc, il faut trouver les mots condensés pour pouvoir y arriver. Donc c'est un travail sur les images, sur des tas de références, sur tout ce qu'il y a d'humain en nous. Donc c'est vraiment, je trouve que la poésie traverse très bien les frontières.
Oui, les frontières, ça sans aucun doute, mais elle dit aussi donc l'acuité de la souffrance.
Je crois, oui, effectivement. Elle cherche l'humain, ce qu'il y a de plus humain en nous, donc elle parle à tout le monde. Mais ce qui est intéressant, il y a « Je remercie la nuit » et puis il y a ce poème qui, en fait, c'est le même sujet en quelque sorte, mais j'ai trouvé le besoin de changer de genre à ce moment-là, pour dire plus peut-être, je ne sais pas, mais pour dire d'une autre façon.
La guerre, mais la guerre de l'amour aussi, parce que je trouve que dans ce recueil, il y a beaucoup de références à la séparation, aux déceptions, à la fin du couple, aux trahisons. Vous hochez de la tête, Véronique Tadjo, donc vous aussi, vous en êtes rendu compte.
Absolument, oui. Oui, absolument. Non, parce que souvent, on parle de la guerre, armement, soldats, etc. Mais il y a des tas de guerres qui se passent dans la vie ordinaire. Et la guerre des couples, je pense qu'elle se passe quotidiennement. C'est tellement difficile de vivre avec quelqu'un longtemps, de faire beaucoup de compromis. Il y a une grande beauté dans l'amour, mais il y a le temps qui s'y met, qui s'y mêle. Et donc, c'est là où l'amour est à l'épreuve de beaucoup de choses.
Et en même temps, ce désespoir amoureux, quand vous l'écrivez, vous étiez très jeune, puisque c'est surtout dans la première partie, me semble-t-il. Vous n'aviez pas encore l'expérience que vous avez aujourd'hui. Donc déjà, vous sentiez que l'amour, ça pouvait être peut-être un champ de bataille, je ne sais pas, ou en tout cas un lieu où il n'y a pas que du bonheur.
Je pense que oui. Je pense que oui. Je pense aussi. La trahison, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément, parce que elle part de quelque chose de beau pour arriver à quelque chose de très difficile, très dur, très, très douloureux, et dont on doit ensuite se guérir. Donc c'est une épreuve, voilà, c'est une grande épreuve.
Donc cette forme de désespoir, je le disais, qu'on peut ressentir ici ou là, j'y trouve un écho aussi dans ce poème, page 119. Le désespoir est entré dans mon âme. Je ne veux pas mourir. Je ne peux plus vivre. J'en arrive à craindre le soleil et son intolérance. Au poète, au combattant, je demande comment survivre à la mort. Est-ce qu'en effet, le poète a une réponse à cette question, Véronique Tadjo?
Je pense que le poète essaie de trouver une réponse, ou en tout cas est bousculé par cette question. Comment fait-on après la mort? Qu'est-ce qu'il arrive? Qu'est-ce qu'il devient? Quand un pays a été complètement déchiré, qu'est-ce qu'on fait avec tous ces morts qui reviennent hanter les vivants et font que c'est difficile de reprendre la vie à l'endroit où on l'a laissée? Et c'est ça en fait, cette idée que la mort en elle-même n'est pas un arrêt, parce qu'elle a des conséquences et donc ça continue et il y a tout le travail que les vivants doivent faire.
Mais à défaut de répondre à la question de comment survivre à la mort, est-ce que la poésie peut consoler?
Je pense que la poésie peut consoler ou peut amener à comprendre qu'on n'est pas seul et que voilà, il y a d'autres qui vivent cette déchirure et ça peut consoler, effectivement, oui. Ça, montrer que oui, on se comprend, on peut se comprendre. Et c'est ce qu'on veut, en fait, c'est que les gens arrivent à se comprendre.
Et vous, écrire de la poésie, ça vous console, Véronique Tadjo?
C'est une nécessité. C'est une nécessité. Je ne peux pas faire sans.
C'est comme respirer, comme voilà. Boire et manger.
Je ne peux pas faire sans.
Donc ça veut dire que vous écrivez tous les jours?
Pas forcément, mais c'est c'est une vision du monde. C'est une façon de vivre. Et donc, par exemple, quand je vois les gens dans le métro ou dans les transports en commun ou même partout dans leur téléphone, en train de regarder leur téléphone, la nuque courbée, je me dis, il rate tellement de choses. Et des fois, je me prends à compter combien est-ce qu'il y a de gens qui sont sans téléphone pour le moment, qui ne sont pas sur leur téléphone. Et ça va être 1/10.
Et justement, c'est précisément la question à laquelle je voulais arriver, parce que face à la puissance de cette poésie, vous racontez dans « Je remercie la nuit » l'importance des réseaux sociaux pour vos deux jeunes protagonistes. Et pour cette génération, est-ce que vous y voyez un risque pour la littérature, pour la poésie, pour le roman, qui sont concurrencés ici par une lecture rapide, facile, sur un écran qui supplante la profondeur ?
En fait, c'est à double tranchant. Parce que en même temps, il y a par exemple des clubs de lecture qui font un tabac incroyable sur les réseaux sociaux et qui amènent des milliers de jeunes à lire. Donc, il y a des possibilités. En fait, c'est à nous d'utiliser les médias sociaux pour quelque chose de bien. On n'est pas obligé de se rendre fou et de vivre comme ça au jour le jour. Donc, il y a une possibilité. Et ce n'est pas tout négatif, tout n'est pas négatif. Et puis, dans Je remercie la nuit, par exemple, ça permet à Flora de communiquer avec ses amis étudiants, avec les autres étudiants, et d'essayer de mobiliser ces jeunes-là pour dire non à la guerre. Donc, on sait que les réseaux sociaux, dans certains conflits, peuvent jouer un rôle important. Donc, c'est à double tranchant. On ne peut pas dire que tout est mauvais. Mais bien sûr, il y a des tas de dangers.
Est-ce que pour autant, vous pourriez, vous, Véronique Tadjo, publier des poèmes sur un réseau social ?
Oh oui, absolument.
Vous l'avez
absolument.
Fait ?
Pas vraiment, mais je pourrais le faire, oui.
Maintenant,
je pourrais
le faire.
C'est parce que, en fait, oui. En fait, c'est parce que je n'ai pas encore trouvé là où je pourrais les publier, mais oui, bien sûr.
Ça serait une idée formidable.
Et puis, ce que j'aime aujourd'hui, c'est que les jeunes ont remis la poésie dans la rue. Avec le spoken word, avec le slam, il y a des choses qui me font plaisir parce que ça veut dire que la poésie est sortie des rayons des librairies ou des bibliothèques pour retourner dans la rue, pour redevenir vivante, parler aux gens, à ceux qui sont autour. Et ça, je trouve ça formidable.
Et ça, vous y êtes sensible ?
Ah, très sensible, oui.
Merci beaucoup, Véronique Tadjo. Je rappelle donc le titre de ce recueil de poèmes, L'Atérite, qui a paru aux éditions Point dans la collection Poésie.
Merci beaucoup, un grand plaisir.
Et avant de nous quitter, un mot pour vous dire que la 5e édition du prix Voix d'Afrique sera lancée lundi prochain, le 17 mars. Je vous rappelle que ce prix littéraire, initié par RFI, les éditions Lattès en partenariat avec la Cité des Arts et France 24, a pour objectif de révéler les nouvelles plumes du continent africain. Ce concours s'adresse à toute personne âgée de 18 à 30 ans, n'ayant jamais été publiée, résidant dans un pays d'Afrique et écrivant en langue française. Si c'est votre cas, vous pourrez envoyer votre manuscrit sur la plateforme internet dédiée, dont vous trouverez l'adresse précise sur la page de l'émission d'aujourd'hui. Attention, le lien ne sera actif qu'à partir du 17 mars et vous aurez jusqu'au 17 juin 2025 pour vous inscrire et déposer vos textes. Après Yaya Diomandé, lauréat pour Abobo Marley, Fanatiki pour CAF 72, Ernis pour Comme une reine et Nince Monfalé pour Ses soleils ardents, vous serez peut-être la 5e personne à gagner le prix, être édité et venir en France. Bonne chance à toutes et à tous et vive le prix Voix d'Afrique.
Littérature sans frontières. Catherine Frujon-Toussaint. Apolline Verlon.
Vous pouvez réécouter cette émission sur le site rfi.fr en cliquant sur l'onglet Podcast. Et pour ne manquer aucun numéro de votre magazine, vous pouvez vous abonner à Littérature sans frontières dans votre application préférée et nous laisser un commentaire.